Bonsoir, bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir, eh bien, comme d'habitude, on va vous annoncer déjà le sommaire de l'émission. Donc, dans une première partie, une invitée, allez, on va dire aujourd'hui une invitée surprise. On vous en parlera dans quelques minutes. Et puis, dans une deuxième partie, nos coups de cœur, avec en particulier un livre de Rivage Noir, du Serpent Noir et de chez Métayer. Donc, comme je viens de vous l'annoncer, en première partie, une invitée qui va nous parler d'un livre que j'ai personnellement beaucoup apprécié, et c'est devenu d'ailleurs le coup de cœur de l'association La Noiraude. Jacques, d'ailleurs, si tu peux redonner l'adresse du site internet, ce serait bien.
Et ben c'est très simple, c'est www.lanoiraude.com.
Voilà, donc sur ce site.
LANOIRODE.
Oui, il est bon de le préciser parce qu'il peut y avoir de nombreuses orthographes. Donc, ce livre s'appelle Quai des Enfers. Il est paru très récemment à la Série Noire, chez Gallimard. Et son auteur, qui est une nouvelle venue dans le monde du polar, c'est Ingrid Astier. Et Ingrid Astier a la gentillesse de nous rejoindre. Bonsoir Ingrid.
Bonsoir Corinne.
Et merci beaucoup de nous rejoindre. Donc, je disais, c'est votre premier roman noir ? Mais vous n'en êtes pas à votre premier livre. Je cite des titres, Le goût du thé, Le goût du chocolat, et aussi Cuisine inspirée, autour d'artistes français. Tous ces livres célèbrent en fait un peu la jouissance de nos sens. Donc, d'ailleurs, on va le voir, ce dernier livre, Quai des Enfers, s'il est définitivement un roman noir, est aussi, je trouve, une manière de célébrer, on va dire, certains plaisirs des sens. Et plutôt d'ailleurs que vous demandez votre parcours et vos occupations professionnelles, je préfère directement vous demander les passions qui vous animent.
Elles sont très simples en fait, et ce depuis l'enfance en fait, c'est d'écrire et de dessiner, et les deux sont pour moi absolument liés, c'est-à-dire que j'ai un rapport très manuel à l'écriture. Et c'est ce qui fait que je me suis ensuite intéressée aux arts, hein, qu'on retrouve beaucoup dans Quai des Enfers.
Mmh,
et donc il y a toujours cette présence des tableaux. Et d'ailleurs, je suis partie de l'inspiration de deux tableaux pour construire l'intrigue.
On reparlera de ces tableaux par la suite. Mais donc, d'où vous est venu, après ces livres qui tournent autour quand même des papilles gustatives, les livres dont je viens de citer les noms, d'où vous est venue l'idée d'écrire avec les codes du roman noir ?
Parce qu'en fait, par le roman noir, finalement, je pouvais accéder à une liberté totale. Parce que ce qui m'intéressait, c'était évidemment l'âme humaine. Et à travers le roman noir, on peut justement arpenter des milieux très différents en allant jusqu'au bout des langages. Donc il y a eu un gros travail à effectuer dans Quai des Enfers pour partir finalement à la quête de façon de parler qui était atypique, qui est relevée du registre populaire. Et donc partir finalement à la traque d'expression qui était destinée à disparaître.
Oui, alors on va rencontrer une foule de personnages. On va essayer de parler un petit peu du début du roman, sans évidemment dévoiler quoi que ce soit de la fin de l'intrigue. On pourrait commencer par la découverte d'un cadavre sur une barque, et par hasard, elle s'échoue au 36 Quai des Orfèvres. Une belle jeune femme, en une mise en scène, on va dire, aussi macabre que belle. Vous nous dévoilez quelques petites voiles de Salomé, encore
L'expression est très belle. Oui, en fait, le roman s'ouvre sur une ronde de la brigade fluviale. Donc ça, c'est un peu la singularité de ce roman, parce que c'est le premier roman policier qui est consacré à la brigade fluviale, alors qu'elle existe depuis le début du XXe siècle. Et donc, on a une barque à la dérive qui finalement se coince à l'escale du quai des Orfèvres. Et les policiers du fleuve vont se demander d'où vient cette jeune femme qui est à bord, qui donc est morte à l'intérieur de la barque. Et c'est la brigade criminelle qui va prendre le relais et qui va mener l'enquête.
Mais ceci dit, on n'abandonne pas la brigade fluviale, parce qu'on la suivra, que ce soit dans sa barque ou à vélo d'ailleurs, puisqu'à un moment donné, on a une très très belle balade à vélo dans Paris. Un des personnages principaux, c'est la Seine. Donc vous avez envie de mettre en scène, si je puis dire, la brigade pluviale. Mais qu'est-ce qui vous a d'abord donné envie? Est-ce que vous aviez envie de parler d'abord de la brigade fluviale ou plus simplement d'une intrigue, de certains personnages? Qu'est-ce qui vous est d'abord venu à l'esprit dans ce livre?
Pour moi, d'abord et avant tout, le roman policier, c'est la percée des secrets et des milieux, et donc j'avais envie de m'attaquer à un secret qu'on avait vraiment sous les yeux, qui était la Seine, puisqu'en fait la Seine, c'est 6 millions de touristes qui la parcourent chaque année, mais qui ont simplement un rapport de surface. Donc moi, j'ai voulu passer de la traversée de Paris à la plonger dans la Seine, en fait.
Oui, on y plonge, je dirais, très froidement, parce qu'il y a certaines scènes assez étonnantes et beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Vous profitez d'un passionné et de pêcheurs, de quelques pêcheurs qui essayent de scruter ce qu'on va... Bon, c'est pas vraiment un serial killer, quoique, mais on va pas trop en parler. Et donc, vous en profitez pour raconter plein d'anecdotes, plein de choses. Est-ce que c'est des choses que vous saviez ou que vous avez cherché spécifiquement pour ce livre, hein?
Non, ça, c'est un vrai travail sur le vif. C'est un travail que j'ai mené sur le terrain pour partir à la recherche, en fait, de personnes existantes qui allaient servir de lanceurs pour le roman. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir finalement que la Seine structurait parfaitement cette quête, parce qu'autour de la Seine, on a évidemment la brigade criminelle du Quai des Orfèvres, on a la brigade fluviale au Quai Saint-Bernard. En face, on a l'Institut médico-légal, et tout autour se greffe toute une faune extrêmement intéressante, comme celle des pêcheurs, du garde-pêche de la Seine aussi, et des SDF, évidemment, qui eux apportent une couleur et une poésie particulière à ce livre.
Alors, je crois qu'un des codes de ce livre, et qui est d'ailleurs un des jeux qui est propre, je dirais, au code du roman noir, c'est l'éclectisme. Vous baladez dans tous les milieux. Donc, on vient de parler des SDF, du milieu des flics, du milieu de l'Institut médico-légal. Il y a en particulier des descriptions d'une minutie et d'une précision sur des scènes de crime ou des dissections, je dirais, passionnantes. C'est vraiment très très intéressant. Et puis on part tous azimuts. Vous avez dit tout à l'heure que vos passions c'était l'écriture et le dessin, mais il y en a bien d'autres. Vos passions pour la musique, la cuisine, la peinture, en fait tout ce qui fait un peu jouir les sens. Et moi, j'ai un petit peu pensé à cette théorie de l'hédonisme matérialiste à la Michel Onfray.
Ah, c'est très joli, et puis je pense que c'est juste, parce qu'en fait, ce qui m'anime, évidemment, c'est finalement cette démarche humaine du promeneur. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui me promène à la fois dans l'épaisseur des êtres et des choses. Et donc, le roman policier est la parfaite synthèse de mon univers. C'est-à-dire que je peux vraiment aller à fond dans la musique, dans la botanique, dans mon penchant aussi pour la médecine et l'anatomie. Et évidemment, pour aller trouver des personnes qui sont hors du commun, tout en faisant partie du quotidien.
Alors, il y a des personnages de flics qui sont très, très intéressants, en particulier les deux commandants qui sont à la brigade criminelle et qui vont développer un peu cette histoire. Mais plutôt que les flics, moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu d'un personnage. Il en existe très, très peu, je crois, dans le monde, parce qu'ils ont une caractéristique très particulière. C'est un nez. C'est Camille Beau. D'ailleurs, il est suspect à un moment donné, on ne va pas en dévoiler plus, mais parlez-nous un peu de Camille Beau.
Alors, Camille Beau, c'est un personnage extrêmement complexe, comme on les aime dans le polar, parce qu'il a plein de facettes, et finalement, il est comme un parfum. Un parfum, plus il est intéressant, plus il a de facettes, plus il est ambigu. Et en fait, l'intérêt, c'était encore une fois d'aller m'attaquer à un secret, puisque finalement, tout le monde connaît les parfums, tout le monde en a porté, on est environné par les visuels publicitaires, mais personne n'a vu, une fois dans sa vie, réellement une formule de parfum. Donc ça, j'avais envie aussi d'aller jusqu'au bout de ça. C'est vraiment un voyage aussi jusqu'au bout du secret, et de partager avec le lecteur une vraie formule de parfum qui est celle que construit Sonné Parfumeur tout au long du roman.
Et comme ici vous êtes dans une radio qui est sise à Grasse, tout va bien avec les parfums. D'ailleurs, je profite de l'anecdote. Je ne sais pas si vous le savez, mais un des plus connus romanciers de romans noirs français, Jean-Bernard Pouy, a cette faculté, a été un nez. À un moment donné, il a une faculté absolument incroyable pour déceler les odeurs, et il a jamais travaillé là-dedans, mais il aurait pu.
Et il avait participé à un livre aussi de Grasse sur le parfum.
C'est possible, oui. Alors, aussi, autre jeu, autre code avec lequel vous vous amusez tout au long du livre, c'est l'idée de juxtaposer constamment le beau et l'horreur, on dirait la jouissance avec le malheur. On a tout le temps de belles senteurs, les fragrances les plus magnifiques, mais aussi l'odeur de la pourriture, l'odeur de la mort, l'odeur de la scène qui n'est pas très, très agréable, par exemple, le bonheur et le malheur. C'est un code qui vous a inspiré dans ce roman ?
Absolument. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette mêlée, en fait. C'est vraiment cette étreinte entre la beauté et l'horreur, puisque pour moi, c'est absolument le reflet de la vie. Et si je m'intéresse à la vie, je dois m'intéresser absolument à cette dimension complexe. Et donc, tout au long du roman, en fait, mon travail repose sur, finalement, l'inspection de l'inquiétante beauté. Donc, même un très beau parfum, c'est un parfum qui a des facettes aussi inquiétantes et parfois même rebutantes.
Alors, moi, quand j'ai vraiment eu beaucoup de sensations, des sensations au niveau musical, des sensations au niveau de la peinture, j'ai beaucoup pensé à Francis Bacon. Dans certaines descriptions, dans la description de cette magnifique horreur. Et puis, moi, j'aimerais que vous nous parliez de ces deux peintures qui vous ont inspiré, en particulier une qui est très inquiétante, que je ne connaissais pas, qui sont les Roses d'Elio Gabale.
Ah oui, alors les Roses d'Elio Gabale, c'est un tableau de 1888 de sœur Laurence Tadema, Alma Tadema. Et ce qu'il y a d'intéressant, justement, c'est qu'on a un peintre qui a peint patiemment plus de 2000 pétales de roses, donc dans une scène de banquet antique. Mais tout l'intérêt, c'est que cette scène est extrêmement inquiétante et que finalement, on prend la rose à rebours et qu'on s'intéresse à tout son côté épineux et cruel.
Ah oui, c'est vraiment plus que cruel, comme vous dites dans le roman, supplice raffiné.
Voilà, exactement.
Donc, aussi, il y a un cinéma qui m'a interpellée en lisant ce livre, c'est le cinéma de Peter Greenaway, lui aussi qui fait côtoyer beaucoup les choses les plus sublimes avec les choses les plus horribles, qui a cette idée entêtante de la mort et des choses qui vont pourrir petit à petit. Est-ce que c'est un cinéma que vous appréciez, que vous avez envie dont vous avez envie de parler?
Oui, c'est une très belle référence, Corinne, parce que j'aime énormément Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant.
Ah oui.
C'est un film qui me fascine pour son sens de la couleur aussi. Et finalement, il y a plein de parallèles entre ce film et Quai des Enfers, même si l'on pense à la place de la musique et du chant dans ce film. Et puisque moi aussi, à travers un plongeur du roman qui s'appelle Rémi Julien, je trouve que ce plongeur aussi, il a ce côté un peu lyrique, il incarne aussi la poésie et finalement il véhicule une position comme ça de poète un peu égaré dans l'absurdité du monde.
Oui, il a une observation, il a une acuité d'observation absolument incroyable par rapport à tout ce qu'il entend. Et puis, on dirait qu'il a une écoute vraiment particulière, justement, quand il nous narre ou qu'il entend les anecdotes autour de la scène. C'est assez impressionnant. On va pas dire tout ce qui lui arrive parce qu'on va le découvrir en lisant le roman. Aussi, quand vous parlez des peintures, on a l'impression que, enfin, moi, j'ai eu l'impression que vous les aviez vraiment de manière obsédante devant vous au fur et à mesure que vous écriviez. Et ça m'a fait penser à une interview d'un autre écrivain de la série noire, d'ailleurs, qui s'appelle Patrick Pêchereau. Alors lui, il m'a parlé l'année dernière d'une écriture médiumnique. En fait, il m'expliquait que quand il déambulait dans un lieu ou par rapport à un objet ou une peinture, il s'imprégnait complètement de ses peintures, des photos et des choses, et qu'ensuite, il avait une sorte d'écriture médiumnique. Est-ce que ça vous conviendrait aussi par rapport à votre façon d'écrire ?
Oui, je le tempérerais juste en disant que moi, c'est une écriture hypnotique. Enfin, ce que je recherche, c'est vraiment un degré de saturation par l'image. Donc, c'est vrai que quand j'écris, je vis sursollicitée à la fois par les images, et par les parfums même, hein, et par les sons. Donc, je pense qu'il faudrait l'étendre finalement à une sorte de saturation sensorielle. Et c'est ce qui fait que Quai des Enfers a aussi ce côté polysensoriel.
Oui, tout à fait. Et donc, parmi tous vos personnages, on peut dire sans dévoiler la fin que tous les personnages principaux, en particulier tous les enquêteurs, ne meurent pas. On ne va pas dire s'il n'y en a aucun qui meurt. Mais est-ce que vous avez envie de les retrouver dans d'autres romans ? J'ai ouï dire par le directeur de la série noire que d'autres livres viendront dans cette collection. Donc, est-ce que vous avez envie de continuer un bout de chemin avec ces personnages ou au contraire de les abandonner
C'est même impérieux, en fait. C'est eux qui ont décidé, c'est que je suis allée les chercher tellement loin pour vraiment les vivre comme ça de l'intérieur que maintenant je suis obligée d'aller les retrouver dans une prochaine équipée romanesque. Et j'ai envie aussi de garder Paris et la Seine de la même façon qu'un Elroy a pu garder Los Angeles. Parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de secrets à divulguer et beaucoup de zones de réserve.
Ah, je pense que, ne serait-ce que au niveau de la Seine, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, au moment où je finissais le livre, en tout début d'année, j'apprenais avec surprise, on parlait de la grande crue de 1910, dont on fête le centenaire, la fameuse crue de la Seine, en fait, fameuse, mais moi je ne la connaissais pas. Et ça me refait penser à ce que vous disiez au début du roman, c'est-à-dire cette façon où on va plonger en nos troubles pour dévoiler certains secrets. Voilà, on va terminer sur cette crue de la Seine, donc en espérant bientôt vous retrouver dans un prochain livre de la série noire. C'est une très très belle découverte et on est très heureux que Aurélia Masson ait publié ce livre. Je précise que c'est le directeur de la série noire. Je vous remercie beaucoup, Ingrid Astier.
Merci Corinne, et puis bonne plongée à tous les lecteurs.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.